Le journal Mireille Boukassa. Bonjour à tous. C'est connu, le Madagascar abritera le sommet de la francophonie en 2010. La RDC, candidate malheureuse de ses prochaines assises de Madagascar, va les accueillir seulement en 2012. L'annonce a été faite hier à la clôture du 12e sommet de la francophonie au Québec. L'actualité, c'est aussi cette confusion au sein du syndicat des écoles catholiques. Les uns appellent les enseignants à la reprise des cours ce lundi, tandis que d'autres affirment poursuivre le mouvement de grève. Des précisions dans quelques instants. Dans la seconde partie du journal, nous serons dans le Bas-Congo pour parler de l'opération Un banc pour deux élèves à Matadi. Cette initiative vise l'amélioration des conditions des enfants qui étudient à même le sol. Bienvenue à cette édition. Le 12e sommet de la francophonie s'est clôturé hier dimanche à Québec au Canada. Le prochain se tiendra au Madagascar en 2010. La RDC, qui était aussi candidate pour l'organisation de ses prochaines assises, ne pourra les accueillir qu'en 2012. Pour le porte-parole du ministère congolais des Affaires étrangères, le choix porté sur la RD Congo en 2012 est une victoire vu la multitude des candidatures. Claude Kamangamouton, joint depuis Québec au Canada par Lievin Binga.
Le sommet de 2012 sera organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'une des plus grandes résolutions que nous pouvons considérer comme un acquis en faveur de la République démocratique.
Qu'est-ce qui a motivé le choix de Madagascar selon vous?
Bon, il faut quand même toujours se mettre en tête que dans la tradition de ce genre de rencontre, en définitive, il apparaît qu'un choix peut être porté sur un pays ou un autre. Il y avait plus de deux candidats en lice, le Madagascar, la République démocratique du Congo et même les pays du sud-est asiatique. Ce qu'il faut retenir et ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'un grand travail a été fait, une mobilisation sans faille s'est révélée autour de la République démocratique du Congo et de la solidité du plaidoyer qui a été déployé ici à Québec. Nous considérons que c'est une très grande victoire, sans faille, il faut le dire.
D'autres résolutions en rapport avec la crise financière internationale et l'environnement ont été également prises lors de ces assises. Et Claude Kamangamouton sera l'invité du jour à 7h30 et 8h30. Toujours au Québec, le délégué général à la francophonie au ministère congolais des Affaires étrangères a pour sa part salué la participation active de la RDC à ce sommet. Didier Mouwa, qui est sur place, estime que contrairement à l'image qu'on se formalisait, la RDC est en train de prendre un nouvel envol sur la scène internationale. Il a dit hier avant la fin de travaux à Axel Goncho.
Depuis que l'on a commencé, on remarque que la participation congolaise est très très active. Il est bien apprécié par l'ensemble des membres. Et d'autre part, contrairement aux années antérieures, nous sommes finalement un pays qui est en train de relever sa tête de plus en plus sur le plan international. Et je m'en vais pour preuve vous montrer, par exemple, en ce qui concerne les aspects financiers, nous étions parmi les pays qui étaient félicités pour avoir apuré les arriérés de cotisation. Franchement, contrairement aux idées reçues, comme un pays qui commence vraiment à récupérer sa place au niveau international.
À ce même sommet de la francophonie, le premier ministre belge a réitéré le souhait du gouvernement fédéral belge d'en finir avec, je cite, 6 mois de flottement dans les relations avec la RDC. Yves Leterme l'a déclaré samedi à l'issue de sa rencontre avec Antipas Moussania Moussi, ministre congolais des Affaires étrangères. Selon lui, la situation de flottement dans laquelle évoluent actuellement les relations entre les deux pays ne profite à aucune partie. Rappelons que Kinshasa a rompu depuis mai dernier le dialogue avec la Belgique à la suite de propos du ministre belge des Affaires étrangères. Ce dernier avait évoqué une obligation morale de la Belgique à prendre position sur ce qui se passe en RDC, la Belgique octroyant, tout domaine confondu, environ 200 millions d'euros par an à la RDC. Retour au pays, l'état-major général des FRDC demande instamment au FDLR de rejoindre sans délai le processus de Nairobi en vue de leur rapatriement ou de leur exil. Objectif, rétablir la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au cas contraire, l'armée nationale se verra obligée de durcir ses actions sur terrain en synergie avec les forces de la MONUC. C'est ce qu'a annoncé sur nos antennes le colonel Kasonga, porte-parole de l'armée nationale. En ce qui concerne le déploiement des forces régulières, il a parlé parlez de 11 bataillons des FRDC disséminés à travers le nord et sud du Kivu. Économie, le prix du carburant vient d'être encore revu à la baisse. Le prix du litre d'essence passe de 760 à 710 et le gasoil de 750 à 700 francs congolais pour les villes de l'ouest comme Kinshasa, Matadi et Bandundu. En ce qui concerne les villes de l'est de la RDC, le litre d'essence va se vendre désormais à 840 et 830 pour le gasoil. Les villes du sud comme Lubumbashi vont vendre les litres d'essence et de gasoil respectivement à 910 et 900 francs congolais. Le ministère de l'économie qui rend public ces nouveaux prix explique que ces changements sont liés à la baisse du cours mondial de barils de pétrole. Éducation à présent, le secrétaire général du CINECAT, El Malassi, appelle les enseignants des écoles catholiques de Kinshasa à reprendre les cours dès aujourd'hui lundi. Moulomba Chimanga a fait cette déclaration le week-end à l'issue d'une assemblée générale tenue au collège Elikia. Par contre, Jean Bosco Pouna, secrétaire général de l'autrel du CINECAT, indique que son institution poursuit la grève lancée depuis le 1er septembre dernier jusqu'à l'ouverture des négociations avec le gouvernement sur leurs revendications salariales. Entre-temps, certaines écoles à Kinshasa fonctionnent normalement et d'autres pas du tout, Axel Goncho.
L'appel de Moulomba Chimanga a été diversement accueilli. À l'issue de l'Assemblée générale tenue le week-end, certains enseignants présents ont refusé de reprendre les cours, estimant qu'une promesse de négociation avec le gouvernement ne suffit pas pour lever la grève. Point de vue que leur leader syndical ne partage pas. Moulomba Chimanga.
Il fallait d'abord obtenir des négociations directes entre les syndicats de l'EPSP et le gouvernement. Ce que nous avons obtenu, nous nous réjouissons du fait que le ministre du budget, qui nous avait reçu les 5 dimanches, est devenu premier ministre.
Pendant ce temps, Jean Bosco Pouna, qui dirige l'autre aile du CINECAT, persiste dans le boycott des cours avant tout début des négociations.
Les enseignants ont réitéré la poursuite de la grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Nous attendons le gouvernement qui sera formé pour que le ministre qui viendra, dans une politique générale du gouvernement, qu'on définisse les choses clairement pour que les enseignements puissent reprendre.
Sur terrain à Kinshasa comme en province, certaines écoles du secteur public fonctionne normalement, d'autres non. Les parents des élèves espèrent voir le gouvernement remettre de l'ordre dans ce secteur.
Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps à Kinshasa, les agents de l'ordre, notamment ceux de la police, ont renforcé leur présence dans les principaux carrefours de la capitale. L'inspecteur provincial de la police de Kinshasa rassure qu'il ne s'agit pas d'un contrôle nocturne, mais plutôt d'une présence dissuasive de la police en vue de sécuriser la population. Le général Jean des Dieux Oléko donne ses explications au téléphone de Onésime Kandila.
Ces derniers temps, on a remarqué que les week-ends, il y a beaucoup d'actes de criminalité, des pombas. On s'organise en plus de la patrouille, mais aux carrefours importants. On marque la présence avec les jeeps ainsi que les éléments qui sont joignables ou qui peuvent se déplacer facilement pour mieux sécuriser notre population les week-ends et tous les autres jours d'ailleurs.
Pourquoi à côté des éléments de la police, la population dit retrouver les éléments de la garde républicaine?
Il y a quand même des endroits où il faut absolument la présence des autres éléments, ne serait-ce que du fait qu'ils sont également en train de contrôler les quartiers. C'est notamment vers là où nous avons toujours connu des problèmes à cause des hommes en uniforme, tels que du côté des palais de marbre.
Est-ce que cela va se passer seulement au centre-ville ou...
Dans l'organisation de la police, elle ne concerne pas que le centre-ville, mais plutôt les points névralgiques. Là où nous avons plus de problèmes, c'est là où nous adoptons notre dispositif.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Innocent Linga, bonjour.
Bonjour Mireille.
D'abord le Katanga, plusieurs habitants de la cité frontalière de Kasumbalesa se plaignent d'avoir perdu leurs biens lors de l'opération de bouclage qui a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi dernier.
Mireille, l'armée, la police et d'autres services de sécurité sont passés dans des hôtels et autres maisons d'accueil pour vérifier si chacun possédait sa carte d'identité. Ils ont arrêté tous celui qui n'avait pas ses pièces d'identité, mais plusieurs personnes affirment avoir perdu des téléphones, montre argent lors de cette opération. Les personnes arrêtées affirment avoir payé une somme allant de 15 000 à 25 000 francs congolais comme amende avant d'être relâchées. Les chefs de cité de Kasumbalesa demandent à ceux qui se disent victimes de ces rafles de saisir son bureau. Mais certains responsables des services qui ont effectué cette opération de bouclage rejettent ces accusations portées contre eux.
un banc pour 12 élèves à Matadi.
C'est une initiative de Mme Cathy Malaya, députée provinciale. L'opération a été lancée vendredi dernier. Cet élu de la ville de Matadi entend donc par ses gestes améliorer tant soit peu les conditions d'études des enfants qui d'autres apprennent à même les sols. D'après elle, la ville de Matadi compte plus d'un million d'habitants et un banc par famille peut suffire. En Matadi, Vicky Odia.
École délabrée et non clôturée, sans latrine et sans eau, salle de classe sans banc, les élèves étudient à même le sol, les enseignants manquent de bureaux, c'est l'image que présentent certaines écoles de la ville portuaire de Matadi. Ces écoles la nuit sont transformées en lieux d'aisance et les salles de classe en maisons de tolérance. Pendant les heures de cours, les passants traversent ces écoles de tous côtés. Cette situation préoccupe au plus haut niveau le député national Cathy Mayala qui a lancé l'opération SOS, un banc pour deux élèves à Matadi.
J'ai eu l'initiative après avoir fait un constat amer dans nos écoles où je suis passée lors de mes vacances parlementaires. J'étais très touchée de constater qu'en ce 21e siècle, dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo, qui regorge une grande forêt de Mayong, et que nos enfants s'assoient à même les sols et que les écoles manquent même de latrines et d'eau. C'est une situation que nous n'avons pas supportée et nous avions lancer cette opération pour soutenir nos enfants. Chaque famille peut donner un banc.
Signalons qu'un compte a été ouvert à la coopérative d'épargne et de crédit pour le développement du Congo pour la mobilisation des fonds afin de concrétiser cette opération. Matadi, Vicky Odia, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, la localité de Boya a du mal à subvenir aux besoins alimentaires.
Cette contrée mireille plutôt à près de 36 km à l'ouest de Mbujimayi, qui fut l'un des greniers de la capitale du Kasaï oriental, a vu sa population se tourner vers le diamant. Ses habitants se sont lancés à la recherche de cette pierre précieuse, abandonnant ainsi les travaux champêtres qui a fait sa prospérité. 10 ans plus tard, les diamants s'est fait rare et la population a du mal à reprendre la houe. Conséquence, les habitants ont du mal à subvenir à leurs besoins alimentaires. Suivez ces reportages de Paul Kaboba qui revient de Boya.
En plein jour, ce qui surprend en arrivant dans ce gros village planté au flanc d'une montagne, c'est le silence. Le fait est que tous les hommes valides sont à quelques centaines de mètres de là, dans des profonds trous, à la recherche du diamant. Seulement, la pierre se fait rare et l'argent aussi. Argent nécessaire pour acheter la farine, l'huile et les condiments qui viennent de Mbujimayi. L'histoire renseigne que les habitants ont quitté les champs pour se faire engager dans une entreprise minière qui a ouvert ses portes dans cette localité vers les années 2000. D'autres ont pris pelle et pioche pour se faire chercheurs de diamants. Mais ils sont rares ceux qui ont trouvé la fameuse pierre qui devait les rendre riches. Même l'entreprise en question a fini par fermer ses portes. Mais la population s'obstine à rechercher le miracle en s'enfonçant jusqu'à 40 mètres sous le sol. En attendant, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent car ils n'ont pas cultivé. De retour de Boya, dans le territoire de Miabi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Et de l'autre côté, au Kasaï occidental, les pluies sont rares dans la grande partie du territoire de Kazunga.
Les habitants affirment que cela fait maintenant près de 2 mois qu'il n'a pas plu dans ces territoires au sud-ouest des Kananga. Conséquence, toutes les cultures des maïs, des manioc et des niébés n'évoluent pas bien, ce qui fait craindre à une crise alimentaire. Kati Katai revient aussi de Kazunga.
Territoire de Kazumba, secteur de Matamba. Le paysage est désolant. De jeunes plantes de maïs de moins de 1 mètre de hauteur portent déjà des fleurs. Ce vaste champ de manioc devant nous a des feuilles toutes jaunes. Le responsable que nous avons trouvé sur place explique. Il y a longtemps qu'il n'a pas plu ici. C'est depuis que nous avons planté ces cultures, il y a près de 2 mois qu'il n'a pas plu. S'il n'y a pas de pluie, il y aura une forte famine, car c'est la pluie qui fait pousser les cultures. Mais quand elles n'ont pas de pluie, elles ne poussent pas bien. En ce moment-là, il y aura une famine et la famine engendre la mort. Dans le secteur de Moussoisson voisin, le phénomène est presque le même. La pluie n'est pas venue il y a près de 2 mois. Pour éviter la catastrophe qui pointe à l'horizon, l'administrateur du territoire assistant appelle la population à la culture maraîchère dans les rivières environnantes. Sylvain Mukundai.
Comme il n'y a pas de pluie ici, alors la culture maraîchère peut répondre pas tellement au maximum, mais ne fût qu'à la moitié de besoin. Nous avons presque partout des rivières ici. C'était une culture qui était beaucoup plus négligée, mais les gens commencent déjà à être initiés et ils pourront nécessairement réussir.
Mais à cause de la crise alimentaire qui connaît déjà la province, les agriculteurs ont dû consommer même les semences, ce qui constitue un véritable problème à l'heure actuelle. Kati Katai, de retour de Kazumba, Radio Okapi.
En dehors de nos frontières, 9 employés chinois du secteur pétrolier ont été enlevés samedi dernier près de la région pétrolifère soudanaise d'Abyei. D'après cette nouvelle livrée par l'ambassade de Chine à Khartoum, une cellule de crise avait été formée à l'ambassade immédiatement après l'enlèvement. Des rebelles du Darfour, région occidentale du Soudan en guerre civile depuis 2003, se sont par le passé livrés à des enlèvements de ressortissants étrangers travaillant dans l'industrie pétrolière, particulièrement pour des sociétés chinoises en raison de leur lien étroit avec Khartoum. Trésor Mputumabi, c'est le meilleur footballeur de la République démocratique du Congo pour l'année 2008. L'attaquant du tout-puissant Mazembe a été désigné samedi dernier à Lubumbashi au cours de la soirée Ndembo Award qu'organise Maxime Agency Studio 7. L'international congolais avait déjà obtenu ce prix l'année dernière. Lofo Bongeli de V-Club a lui obtenu la palme du meilleur attaquant de l'année. Plusieurs autres prix ont été également décernés par les organisateurs. Du côté féminin, la palme est revenue à la meneuse de jeu du Grand Hôtel de Kinshasa, Yvonne Malembo. Peu l'entraîneur Bibey Mutombo a été sacré meilleur entraîneur à titre posthume. L'équipe de canon Buromeka de Kinshasa a été sacrée révélation de l'année. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.